Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur le PCC pour un nouvel épisode. Je l'enregistre très très en retard parce qu'on est le 5 avril et j'ai complètement sauté le mois de février qui était à la fois très occupé puis à la fois j'avais un peu perdu la motivation là d'enregistrer un PCC. Donc du coup j'ai laissé filer la date limite, ce que certains m'ont reproché promptement d'ailleurs sur Twitter. Voilà, j'ai laissé passer quelques semaines parce que je pense qu'il faut aussi retrouver l'envie des fois de faire certaines choses plutôt que de s'y astreindre. Et pourtant, Dieu sait si je suis très très un fervent comment dire, un fervent supporter, c'est pas tout à fait le terme que je cherche, mais un fervent adepte de la fréquence très régulière sur le podcast, parce que c'est ça qui en fait un des secrets. Donc voilà, j'ai sauté une coche là sur le mois dernier. Normalement, ça devrait pas se reproduire, mais enfin, on ne sait jamais. L'essentiel, c'est que je sois en mesure de vous livrer un PCC qui ressemble à quelque chose. Donc je remercie évidemment les sponsors officiels, Frédéric Pernaud, Bernard Tory, Philippe Buech, ainsi qu'Hermano Di Michelli, Maximilien, Mohand, Michel et Michael. Voilà, encore désolé pour ce retard. Et puis c'est parti donc pour les nouvelles de ce mois et demi, presque 2 mois maintenant, puisque je vous ai fait janvier, ça nous fait oui février mars, oui c'est ça, ça nous fait bien 2 mois. Donc c'est sûr que la réflexion que je me fais par rapport au PCC, c'est est-ce que il faut forcément que je sorte une émission à la fin du mois de manière très très régulière, ou c'est à chaque fois que ma petite note Evernote elle est assez complète dans avec une liste de sujets assez longue et que je me dis tiens là j'ai assez de stock à donner, à expliquer, à parler, à causer dans le poste. Voilà, c'est un peu la question que j'ai en ce moment. Là je suis plutôt sur ce mode de publication, donc effectivement le risque de ça, c'est que moi, en tout cas, je fonctionne beaucoup sur ce mode-là. C'est que dès que vous avez arrêté de prendre une certaine habitude, de prendre un certain rythme, c'est un peu compliqué de le faire de manière plus irrégulière. En plus, vous créez moins de rendez-vous par rapport aux auditeurs, donc c'est aussi pas mal d'effets pervers. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part, à me faire part de vos réflexions, commentaires. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin de quelle manière potentiellement faire ça. Alors du côté podcast justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal plus d'activités ces derniers temps. Je salue par exemple Sylvain Grandmaison, podcasteur historique du Québec, qui a repris le micro, qui ne l'avait jamais vraiment laissé, mais qui nous avait laissé avec des grandes périodes de silence. Et là, qui a commis des émissions de manière beaucoup plus régulière et toujours aussi intéressante, avec sa belle voix suave, comme il le dit lui-même. Et ce qui est toujours très intéressant, parce que ça donne le point de vue d'un designer, un graphiste, très impliqué dans le monde des médias, dans le monde du travail au Québec, et qui donne toujours un regard que moi j'apprécie beaucoup, suite aux attentats de Bruxelles, il a sorti une illustration que vous avez peut-être déjà vu passer sans savoir que c'était Sylvain qui l'avait faite. C'était la tête, l'ombre de Tintin sur un fond rouge. Donc l'ombre était noire avec une larme jaune qui coulait. Donc aux couleurs de la Belgique. Et il a d'ailleurs sorti une émission tout récemment où il faisait un peu un retour d'expérience de cette période-là, avec la couverture qu'il a eue d'abord sur les médias étrangers et en plus sur le Québec. Donc je ne peux que vous encourager d'aller écouter et découvrir, redécouvrir Sylvain Grandmaison, que je salue au passage. Du côté des podcasts québécois, décidément à l'honneur dans cet épisode, dans ce PCC, il y a un podcast que j'ai découvert Je ne sais plus comment d'ailleurs, je me demande si c'est pas dans le podcast de Sylvain d'ailleurs ou c'est via Twitter, je ne sais plus. Qui s'appelle Court, Geek Court, qui est un podcast québécois de format court, hein, ça fait 5-10 minutes, quelque chose comme ça, et qui parle de course à pied. Voilà, j'ai écouté, je pense qu'il a fait 6 ou 7 épisodes, 7 je crois. J'ai trouvé ça plutôt bien ficelé, c'est intéressant, il y a des informations. C'est quelqu'un qui vient de se mettre à la course à pied depuis pas très longtemps, donc voilà, c'est pas. Non plus un élitiste de la course à pied. Et bah voilà, je trouve ça très intéressant. Dans la série des podcasts, j'ai remarqué aussi ces derniers temps que il y avait beaucoup de podcasts qui étaient actifs en anglais, qui parlaient de guitare. Et c'est quelque chose qui m'avait un petit peu échappé, ou en tout cas qui a repris plutôt du poil de la bête ces derniers temps. Et qui est relativement concret, enfin en tout cas beaucoup plus probant que dans les semaines ou mois précédents, où là par contre le podcast qui parle de guitare avait un petit peu disparu du radar. Il y avait l'historique Six String Bliss qui a disparu il y a déjà plusieurs mois, et des podcasts qui parlaient de guitare, il n'y en avait plus beaucoup. Donc là, de tête, il me semble, sur The Guitar Channel, il y a un répertoire et il doit bien y avoir quelque chose comme une quinzaine de podcasts qui parlent de guitare d'une manière ou d'une autre. Soit c'est des luthiers, soit c'est des fabricants. Il y a par exemple le podcast de Brian Wampler, des pédales Wampler. Il y a aussi des passionnés de guitare. Il y en a qui font des tests, il y en a qui parlent de matos. Enfin bon, il y a un peu de tout. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait un peu plus d'activité à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une véritable résurgence du podcasting. Et ça, évidemment, je ne peux que m'en féliciter. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que je constate cette résurgence d'un côté. Et moi, d'un autre côté, j'ai sauté un mois de PCC. Au niveau de la chaîne guitare, ça fait un moment que je n'ai pas publié aussi. Donc, je devrais suivre un peu ce que je prêche et peut-être me remettre de manière un petit peu plus active aussi à podcaster. Après, la difficulté que j'ai par rapport à la chaîne guitare, c'est comme évidemment c'est le business que je suis en train de développer, c'est l'équilibre à trouver entre le contenu que je mets à disposition gratuitement, puisque le podcast est à peu près impossible à monétiser, sachant que je n'ai pas de publicité dans l'émission et je ne veux pas en avoir. Donc trouver l'équilibre entre le temps passé à faire du contenu du gratuit de cette manière-là et le contenu payant sous forme de vidéo sous lequel je croule littéralement puisque j'ai énormément d'opportunités de générer du contenu. Donc j'ai encore pas mal d'émissions d'ailleurs en rab, en stock, d'émissions audio. Donc il faut trouver l'équilibre et puis considérer que c'est du jab, comme dit Gary Vaynerchuk, un de mes grands gourous du web marketing. Jab, 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 right hook, qui est le nom de son précédent livre, et je vais vous parler de son nouveau livre de très bientôt. Que c'est du jab, c'est des jabs, c'est-à-dire donner, et puis faire un right hook, un crochet du droit pour quand vous voulez faire une vente. Donc voilà, c'était une parenthèse podcast. Dans la section geek, j'ai découvert tout récemment qu'un câble mini display, ce n'est pas du tout pareil qu'un câble Thunderbolt, même si c'est d'un point de vue hardware, la prise est la même. Donc je l'ai découvert récemment parce que j'avais une interface Universal Audio pour brancher, qui permet de brancher deux sources audio, et en particulier des guitares ou des micros, voix, etc. Et pour la raccorder à mon MacBook Air, j'avais acheté chez un marchand chinois de la rue Montgallet un câble mini display sur son conseil d'ailleurs, ce qui me dit Thunderbolt mini display tout ça c'est pareil, en fait pas du tout, ça ne marchait pas. Donc je suis allé à l'Apple Store par la suite acheter un vrai câble mini display qui m'a coûté 25 € je crois, et qui lui fonctionnait très bien. Voilà, donc il faut le savoir. Le multicompte sur Instagram, ça faisait des mois, si ce n'est des années, que je réclamais cette fonction à tort et à travers. Ça reste inexplicable pourquoi Ça a mis si longtemps avant de sortir. Bon, toujours est-il que c'est là, et maintenant je peux passer allègrement du compte @pjournet, là, au compte @lachaîneguitare, à l'autre @theguitarchannel, et il y en a encore un ou deux autres que je gère pour d'autres personnes. Et d'un seul clic, d'un seul tapement de doigts. Et en plus, ça a le bon goût que ça ne perd plus en mémoire, ça garde en mémoire donc les autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez faire du cross-posting, donc Facebook, Tumblr, Twitter et compagnie, ce qui n'était pas le cas avant. Chaque fois qu'on se déloguait, ça perdait la mémorisation des autres réseaux sociaux, ce qui était hyper pain in the butt, évidemment, pour un psychopathe d'Instagram comme moi qui jonglait donc avec au minimum 3 comptes. Donc voilà, alléluia. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi cette fonction qui n'était pas quand même gigantesque en termes de développement n'avait pas été mise en place plus tôt, puisque c'était tout l'intérêt d'Instagram d'avoir plus de trafic, plus de photos sur leur réseau social. Bref, la fonctionnalité est là et ça, c'est bien. Autre nouveauté du point de vue geek, il y a une application que je commence à utiliser un peu plus, un réseau social de plus qui s'appelle Anchor, A-N-C-H-O-R, qui est en fait une sorte de Twitter pour l'audio, qui permet très facilement de poster des capsules audio de 2 minutes sur lesquelles les gens qui vous suivent peuvent vous répondre, etc. Donc c'est une sorte de solution de podcast interactif. L'application qui n'est que iOS, je crois, pour l'instant, est super bien foutue. Surtout la partie onboarding, c'est-à-dire la partie inscription, qui est vraiment un modèle du genre hyper clair, très facile à utiliser, qui donne vraiment envie d'embarquer dans le truc. Et j'y poste assez régulièrement des petites choses, des questions. J'ai commencé à discuter avec quelques usual suspects sur le sujet. Donc par exemple Mike de Niptech, il y a aussi Mathieu, prof du web, il y a aussi Marie-Laure, @Marie-Laure, M-A-R-I-L-O-R, avec qui j'interagis depuis longtemps sur Twitter. Vraiment allez jeter un œil parce que je trouve que c'est très sympa, et en particulier évidemment pour les podcasteurs, mais pas que, parce que si vous avez toujours eu la envie de pousser un peu de l'audio, de partager de l'information, des choses comme ça, et ben vous pouvez le faire très facilement depuis votre téléphone. Donc ça, c'est pas hyper nouveau, parce que c'était pas très compliqué déjà, mais ce qui est un peu nouveau, c'est que les gens qui ont aussi cette application peuvent vous répondre très facilement, et après vous pouvez le poster sur Twitter. Je crois qu'il n'y a que Twitter comme réseau social qui est qui existe, sur lequel vous pouvez balancer ça, et ça marche franchement très bien. Donc voilà, si vous voulez tester ça, je ne peux que vous encourager à le faire, pardon. Donc c'est l'application Anchor, A-N-C-H-O-R. Sinon, j'utilise toujours Snapchat, je dirais même de plus en plus. Voilà, c'est devenu une assez bonne habitude de l'utiliser. Je m'en sers de plus en plus en amont, en fait, c'est-à-dire en préparant, ou en tout cas en pensant à ce que je vais pousser comme contenu. Ça a été le cas par exemple avec le marathon de Paris tout récemment, dont j'ai couru la deuxième moitié. Je vais vous parler de ça dans une seconde. Et en préparant en amont, c'est-à-dire en pensant, ok, là je vais faire un snap d'introduction, ensuite j'ai montré tel et tel plan. Pas hésiter à faire des plans de coupe, vous n'êtes pas forcément en train de parler, mais vous donnez un peu de contexte. Donc pas uniquement vous servir de la caméra frontale avec votre binette sur la vidéo, mais l'autre caméra pour montrer l'extérieur et compagnie. Et ce qui fait que au final, vous pouvez avoir un petit reportage qui peut varier d'une poignée de quelques dizaines de secondes à quelques minutes, et qu'ensuite vous pouvez facilement récupérer sous forme de vidéo, et ce que j'avais jamais fait jusqu'à présent, éditer à l'intérieur de iMovie, de l'application iMovie sur l'iPhone. Pour faire des choses aussi simples que évidemment faire un peu de trimming, couper des séquences vidéo que vous voulez pas garder, rajouter un petit peu de musique, changer l'orientation si nécessaire. et ensuite exporter ça sur votre canal, votre chaîne YouTube, ou poster sur Twitter ou Instagram. Alors Instagram est encore limité à 15 secondes. J'ai vu une information comme quoi ça allait passer, je pense, à une minute de vidéo. Pour l'instant, c'est pas actif sur mon compte. Peut-être c'est quelque chose sur lequel ils font un roll-out de manière progressive. Et donc Snapchat, en général, on l'utilise en vertical, c'est-à-dire avec le téléphone comme vous le tenez normalement. Mais ce qui est intéressant, et ça, c'est le Father Roderick, là, qui fait ça très très bien sur son compte Snapchat, c'est de s'en servir en manière verticale. Comme ça, après, une fois que vous l'exportez puis vous le postez sur YouTube, vous avez une vidéo évidemment qui est en plein écran, qui est plus agréable que d'avoir une vidéo verticale avec des grosses barres noires de chaque côté. Et voilà, du côté Snapchat, je m'en sers en français, en anglais, et je tiens un jour sur The Guitar Channel un répertoire des Snapchatters guitare. Alors il y a quelques personnes connues comme John Mayer, Keith Urban, et d'autres. Il y a aussi des luthiers, des fabricants de guitare, des blogueurs, des podcasters. Donc voilà, qui se servent de plus en plus de ce média. Donc là encore, je trouve ça très intéressant. Et ça vaut le coup de faire l'effort de maîtriser un peu comment communiquer là-dessus. Voilà, on attaque maintenant la séquence livre. Alors la dernière fois, je vous avais parlé d'un livre dont j'avais oublié le titre et l'auteur, je crois bien. Donc il s'agit d'un roman de Antonio Garrido, G-A-2-R-I-D-O, et qui s'appelle Le lecteur de cadavres. Voilà, qui est un titre un petit peu morbide. Et c'est l'histoire d'un Chinois qui a en fait plus ou moins, c'est une histoire vraie, qui a été romancée. Qui a plus ou moins inventé en fait le rôle de médecin légiste, voilà. Et ça se passe, alors je ne sais plus en quel siècle, genre 12-13e ou quelque chose comme ça, enfin bref, une époque très reculée. Et c'est vraiment très intéressant, très très bien fait, passionnant, donc je ne peux que vous conseiller ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec un bouquin de Pierre Lemaitre, voilà, qui avait écrit qui a été un récent concours pour son roman sur la guerre de 14, enfin sur la fin de la guerre de 14 et la suite, qui s'appelait Au revoir là-haut, qui était très fort, très sombre, mais aussi très, très puissant, très bien écrit. Et là, il vient d'écrire, enfin il y a quelques temps déjà, une trilogie qui est en fait constituée de quatre morceaux d'un roman policier qui s'appelle Verhoeven. Donc Verhoeven, c'est du nom de son héros, qui s'appelle Camille Verhoeven, V-E-R-H-O-E-V-E-N, et qui contient donc quatre romans ou nouvelles, voilà. Il y a Travail soigné, Alex, Rosie and John et Sacrifice. Alors là aussi, c'est assez sombre, c'est pas du tout un feel-good book, mais c'est un vrai régal à lire, vous pouvez vous faire embarquer là-dedans assez facilement. Par contre, ça envoie du... Enfin, c'est très sombre, mais encore une fois, on retrouve les personnages, enfin, sa qualité d'écriture, les personnages très fouillés. Ce qui est marrant, c'est... Enfin, marrant ou pas, d'ailleurs, c'est que Camille Verhoeven, donc, qui est commissaire de police, il fait, je crois, 1m45, donc voilà. Mais ça fait pas du tout ridicule, les personnages sont hyper crédibles, et on s'y attache, que ce soit les bons comme les mauvais, et... c'est un roman policier, donc il y a un début, il y a une fin. C'est pas du tout téléphoné là, comme fin, c'est vraiment... moi j'ai passé un bon moment. Voilà, la seule réserve que je mets, c'est que si vous n'avez pas super la pêche, c'est pas en lisant ça que vous allez l'avoir par la suite. Et en ce moment, je me régale parce que je suis en train de lire, j'ai reçu la version papier du bouquin de Gary Vaynerchuk, donc qui est basé sur son show vidéo, Ask Gary V. Donc c'est The Ask Gary V Book, et qui est un vrai régal, hein. C'est vraiment un caviar, c'est une sorte de condensé de ses derniers bouquins finalement. Donc si vous voulez commencer avec Gary Vaynerchuk, vous pouvez très bien commencer directement avec ce bouquin là. Moi je trouve que c'est hyper bien foutu, très intéressant, très complet, Il parle de quoi? Ben, il parle de sa vie d'entrepreneur, mais il parle aussi de sujets très larges, du fait d'être parent, de l'éducation. Alors là, j'en suis sur le premier tiers, et puis je veux le lire un peu tranquillement, parce qu'en fait, c'est le format qu'il a repris de son émission où les gens lui posent des questions. Donc il y a des questions, et puis il répond en quelques paragraphes. Des fois, c'est assez développé, des fois, c'est assez court, toujours très, très impactant. Et c'est vachement plein d'inspiration et plein de choses quoi, hein. Moi c'est clairement hein, quelqu'un que, qui a beaucoup d'influence sur ce que j'ai fait ces derniers temps là, depuis que j'ai quitté un peu le monde du salariat, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est quelqu'un qui m'inspire à beaucoup d'égards, et je trouve qu'il gagne à sortir même très largement de la sphère purement start-up, entrepreneur, etc. parce qu'il a des messages très puissants à passer. Et le bouquin se lit très bien. Donc je l'ai acheté en version papier sur Amazon, et j'ai pris le mois gratuit sur Audible pour avoir en version audio, parce que il a une version audio qui, d'après ce que j'ai pu voir dans ses émissions vidéo sur YouTube, qui est très différente de la version papier. Et bon, comme j'ai jamais fait de test de livre audio, je testerai ça. Il y a en particulier une citation de Casey Neistat, que j'aime beaucoup, qui est intervenu dans une des émissions de Gary Vaynerchuk, qui reprend ça, je pense, c'est sur le chapitre sur l'éducation. Et il dit... voilà, il y a deux choses en fait qu'on devrait faire dans la vie, deux choses, hein, c'est pas compliqué. La première, c'est de trouver sa passion, et la deuxième, c'est de la réaliser. Et j'ai trouvé ça hyper fort, et alors bien sûr, ça ne peut que résonner chez moi avec la guitare, ce que je fais sur la chaîne guitare, etc. Mais je trouve que vraiment, ça va au-delà de ça, c'est pas juste ceux qui ont envie de faire quelque chose de un peu dans le domaine un peu créatif, un peu entrepreneur, voilà, comme ce que je suis en train de faire depuis 4 ans maintenant, mais c'est tout à fait applicable à n'importe qui. Et qui dit passion, va y trouver son calling en fait, hein, ce sur quoi ce qui nous fait kiffer le plus. Et c'est pas forcément encore une fois un truc créatif, ça peut être quelque chose de plus terre à terre, de plus relié à son travail dans l'entreprise, mais trouver vraiment sa fonction, le domaine dans lequel on s'éclate et dans lequel on est le meilleur. Donc voilà, c'est à réfléchir. Un petit point sur la chaîne guitare, on est aujourd'hui à 249 backstagers. La croissance a un peu repris ces dernières semaines. Voilà, ce dont je ne peux que me féliciter. Il y a 27 clients pro parmi ces 249 clients. Il y a eu une très bonne soirée matos en février, où j'avais fait venir des gens, des clients pro qui étaient en fait des exposants pour une sorte de mini-salon où les passionnés de guitare avaient l'occasion non seulement de discuter avec les artisans, mais de tester le matériel en studio. D'ailleurs, j'en refais une en avril. Donc ça va plutôt, c'est plutôt des bonnes occasions pour animer la communauté. La prochaine, ça aura lieu le 28 avril, donc c'est à Montreuil, à l'atelier 58. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous allez sur lachaîneguitare.com. Le 13 mars, je suis allé à Mutzig, en Alsace, pour la deuxième journée de la guitare. C'était l'occasion pour moi de faire quelques interviews de luthiers, d'être présent, de grenouiller avec le milieu de la guitare, et puis de sortir du petit monde parisien de la guitare. Voilà, donc ça c'était intéressant. Bon, voilà, c'est un investissement, voilà, c'est pas non plus faramineux, hein. Ça m'a coûté un billet de TGV, une nuit d'hôtel, voilà, ça a été beaucoup de discussions intéressantes, voir un peu comment fonctionner, comment être présent sur ces événements qui sont toujours évidemment une concentration de passionnés de guitare, et c'est clairement là, moi, où il faut que je recrute du backstager. Par la suite, il y a eu fin mars le festival Guitare au Beffroi qui s'est tenu à Montrouge, donc là tout à côté de Paris, où là j'avais un stand de manière très très officielle puisque je l'avais payé, alors qui a changé un peu de format, puisque l'année dernière il y avait 70 exposants et cette année il n'y en avait plus qu'une trentaine, parce qu'il y a une sorte de chicane entre les organisateurs du festival et puis les luthiers français qui, je trouve personnellement, manquent un peu de leadership avec leur organisation, la PLG. Ils se sont pas très très bien organisés, quoi. Ils ont un peu eu du mal à sortir leur tour d'ivoire. Je pense qu'il y a eu des choses très très maladroites qui ont été faites de la part de l'organisation, qui a quand même doublé le prix des tables, où c'est passé de 400 euros TTC à 800 hors taxes. Donc forcément, ça fait très cher. Quand vous changez pas tellement le produit puis que vous doublez le prix, forcément, c'est toujours un petit peu un problème. Néanmoins, ça a été des belles rencontres, pas mal d'occasions de discuter avec beaucoup de backstagers. J'ai même vendu quelques passes, voilà, donc ça c'était plutôt positif. J'ai fait quelques interviews, des belles rencontres, un petit peu moins de monde que les années précédentes. Les gens ont été surtout très frappés du vide, hein, surtout ceux qui étaient venus à l'édition précédente, où la salle de l'immeuble très art déco là, du Beffroi de Montrouge est très belle, quoi. Mais quand on passe de 70-75 exposants à 30 à tout casser, forcément ça fait un peu plus vide. Alors ce qui était bien, c'est que comme il y avait moins de monde, voilà, en particulier le matin, le salon ouvrait à 11h, bah, on avait plus de temps à discuter avec les autres personnes de la communauté, donc on était très très entre pros. Par contre, un peu moins de visiteurs. Bon, il y a quand même eu, je pense, pas loin de 2000 personnes qui sont venues sur le 2 jours et demi, donc samedi dimanche plus le vendredi soir. Voilà, ce qui est pas si mal. Après, c'est 2000 personnes en accès gratuit, puisque l'entrée du salon des luthiers n'était pas payante. Donc, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup de promeneurs. La prochaine étape, c'est la fin de la semaine. Là, à partir de jeudi, je pars à Francfort jusqu'à samedi après-midi au Musikmesse, qui est un peu l'équivalent européen du NAM, le salon où je suis allé à Los Angeles, à Anaheim, en janvier. Voilà, un salon qui est pas mal en train de changer, qui a perdu pas mal de surface. Bon, moi, depuis que j'y vais très régulièrement via la chaîne guitare, on m'en prévoit la fin. Bon, je serais, vu la taille que ça a encore, je serais surpris que ça disparaisse complètement. Alors c'est toute l'industrie, enfin non seulement des instruments de musique, mais aussi sono, etc., lumière et compagnie. Et donc voilà, il semblerait que la partie instrumentale pure perd un peu d'ampleur. Il y a des gros joueurs qui ne sont pas présents cette année. Fender n'y était pas l'année dernière, donc à mon avis ils ne sont pas cette année. Taylor Guitars, qui est un backstager pro, n'y est pas cette année, alors qu'ils avaient un gros stand dans la section acoustique. Donc voilà, c'est quand même des signaux qui sont assez importants quand il y a des gros joueurs qui se déplacent plus sur des gros salons comme ça. Néanmoins, moi j'y vais parce que j'y ai pas mal de rendez-vous. C'est comme toujours un peu l'occasion à la fois de développer un peu de contenu, parce qu'il y a souvent, même si c'est de moins en moins le cas, des artistes qui sont présents pour faire des démos, donc ça peut être l'occasion de les coincer en interview, mais aussi d'entretenir les relations que j'ai avec les sociétés qui sont passées pro sur la chaîne guitare. Et d'en développer de nouvelles. J'ai par exemple un rendez-vous avec quelqu'un de chez Yamaha, donc ça c'est très intéressant, et ça reste encore un rendez-vous professionnel. Et puis bon, voilà, c'est Francfort, hein, donc quelques centaines d'euros maximum de budget pour couvrir l'aller-retour en train, et puis ensuite quelques nuits via Airbnb. Voilà, je suis en train de réfléchir si j'ai oublié des choses à vous raconter. Non, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc je m'excuse encore de ce silence radio pendant pas loin de 2 mois. Comme dit Sylvain, à juste raison, ce qui nous fait vivre, continuer surtout les podcasteurs, c'est l'interaction. Donc j'entends bien que vous aimez bien écouter ma douce voix raconter tout un tas de choses, mais ce qui sera encore plus top, encore plus motivant, c'est si vous me pingiez via Anchor, par exemple. Si vous avez un iPhone, je pense pas que l'application soit disponible sur Android. Si vous avez un iPhone, installez Anchor, et puis répondez-moi, posez-moi des questions, interpellez-moi, ce qui me poussera encore plus au derrière pour faire un prochain PCC dans moins de 2 mois. Voilà, bah écoutez, sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Je vais sortir de ma note. Est-ce que j'ai reçu des notifications? Oui, je vois que Valmant a retweeté que j'enregistrais le nouveau PCC. Voilà. Atentrepod a fait un like dessus. Donc, bah voilà, bah je crois que ça fait le tour. Donc, bah écoutez, sur ce, je vous fais des grosses bises. Continuez à bien écouter des podcasts indépendants. Et surtout, à leur dire que vous les aimez, compagnie. Si vous avez 2 minutes, vous pouvez aller dans iTunes et poster une revue avec plein d'étoiles. Mais surtout, pinguez-les sur Twitter, Facebook, Instagram, Anchor, donc Snapchat, voilà, la totale, parce que c'est quand même ça, le sel de la vie, c'est l'interaction. Voilà, je vous fais des grosses bises, et puis à très bientôt. Ciao, bye bye.